France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Depuis la découverte de la première exoplanète en 1995, nous en avons débusqué près de 8000 à ce jour. Mais pourquoi est-il si difficile de mettre la main sur une planète comme la nôtre? Et comment la mission Plateau va-t-elle y remédier? Le télescope de l'ESA, l'agence spatiale européenne, a passé les tests et il est prêt. Son lancement est prévu début 2027. Équipé de 26 caméras, Plateau a été spécifiquement conçu pour deux objectifs. Repérer des mondes semblables aux nôtres, situés dans leur zone habitable, et analyser leurs étoiles hôtes. Cette mission ambitieuse cherche à répondre à une question essentielle. Existe-t-il quelque part une planète analogue à la Terre, en orbite autour d'une étoile, comme notre Soleil ? Mission spatiale, des exoplanètes servies sur un plateau. Magali Deloye, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicienne, professeure des universités au laboratoire d'astrophysique de Marseille, le LAM, et membre du conseil scientifique de l'ESA pour la mission Plateau. Rita Maria Wasani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astronome adjointe au laboratoire d'instrumentation et de recherche en astrophysique, le LIRA, de l'Observatoire de Paris PSL. Merci à vous deux d'être avec nous dans ce studio en direct sur France Culture et merci à vous d'être là avec vous, avec nous également en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas également à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous des ressources, des liens, tout un tas de choses qui sont là pour compléter votre écoute et c'est à retrouver sur notre compte @sciencesqfd. Alors pourquoi débusquer des planètes telluriques comme la nôtre? C'est précisément ce qu'il y a de plus difficile à détecter. Pourquoi rechercher des planètes analogues à la Terre? Et en quoi cette mission spatiale est-elle unique? Nous avons une heure pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour.
Des environs, on ne voit que lui, l'Observatoire de Haute-Provence, avec ses coupoles au milieu des collines boisées. C'est là qu'on a découvert, il y a 14 ans, la première planète hors de notre système solaire. Depuis, des centaines de scientifiques du monde entier se sont lancés dans la course. Aujourd'hui, plus de 330 exoplanètes ont été détectées.
La plupart sont des planètes géantes gazeuses, où la présence de vie est complètement impossible. Mais ces dernières années, les techniques ont progressé et on a commencé à détecter des planètes de type grosse Terre, super Terre. Cette prochaine décennie verra certainement la détection de planètes comparables à la nôtre.
Dans la salle de contrôle, les chercheurs vont croiser les données avec celles du satellite Kourou en orbite pour traquer les étoiles suspectes.
Et là, on est à combien de distance de cette étoile ?
Quelques dizaines de parsecs. Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Donc celle-ci, elle serait à 100 000 ou 200 000 milliards de kilomètres, à peu près.
Chercher d'autres planètes, ça peut donner le vertige.
Voici notre berceau, la Terre. La Terre est l'une des 8 planètes qui tournent autour de notre étoile, le Soleil. Mais le Soleil n'est pas unique. Il est l'une des 100 milliards d'étoiles qui peuplent notre galaxie, la Voie lactée. Le Soleil se trouve en périphérie, dans ce qu'on appelle le bras d'Orion. Mais notre galaxie n'est pas seule. Dans l'univers, elle voisine avec d'autres galaxies qui représentent elles-mêmes des centaines de milliards d'autres étoiles et donc d'autres planètes.
Dans quelques années, l'humanité découvrira peut-être une autre planète que la nôtre, réunissant toutes les conditions de la vie. Mais savoir si elle abrite une civilisation extraterrestre sera beaucoup, beaucoup plus compliqué.
Voilà un extrait du 20h de France 2 en 2009. Alors 17 ans plus tard, Magali Deloye, avec 7943 exoplanètes au compteur exactement, on en est où dans la recherche d'une planète similaire à la nôtre ?
Je dirais que ce qu'on a appris, effectivement, c'est qu'il existe des planètes qui sont très différentes de la nôtre, des systèmes planétaires est également très différent de notre propre système planétaire, dans lequel on va trouver plusieurs petites planètes, mais dans des systèmes très très compacts, c'est-à-dire toutes ces petites planètes, 5-6 petites planètes, sont plus proches de leur étoile que ne l'est Mercure de notre propre Soleil. Ça, c'était une chose à laquelle on ne s'attendait pas. On s'est rendu compte également que la population dite des petites planètes est beaucoup plus diversifiée que ce que l'on pensait, en fait. On connaît des petite planète, ce qu'a appelé mon collègue François Bouchy, dont j'ai reconnu la voix dans le reportage Les Super-Terres, effectivement. Ça, ce sont les missions Corot et Kepler qui nous ont appris que ces Super-Terres existent. Elles sont celles qu'on connaît aujourd'hui encore très proches de leur étoile. On a des planètes géantes également très proches de leur étoile. On a tout un bestiaire en termes de planètes qui était absolument inattendu à l'époque de la découverte de 51 Peg B. Mais par contre, aujourd'hui encore, on n'a pas trouvé d'analogue, bien établi à notre propre planète.
C'est ça, Rita Maria Ouazzani, pour rebondir également sur l'archive qu'on vient d'écouter. Pour le moment, les exoplanètes qu'on découvre sont des bizarreries comparées à notre système solaire.
Absolument. Et c'est vrai qu'on a eu aussi une grande surprise, il me semble, avec Corot, qui était de découvrir des géantes gazeuses très proches de leur étoile, alors qu'on pensait qu'elles se formaient effectivement comme ce qu'on a dans le système solaire. Et ça montre qu'en fait, le système solaire, c'est une des possibilités de réalisation, en fait, de la formation et de l'évolution des systèmes planétaires. Et justement, aller observer d'autres systèmes, ça permet complètement de mettre en contexte notre propre système et de comprendre comment est-ce que c'est possible qu'on en soit arrivé là.
Une des possibilités, et pour le moment, qui n'est pas la norme, Magali Deleuil. Du moins, qui ne semble pas être la norme.
En tous les cas, on ne peut pas répondre aujourd'hui, tout simplement parce que on est en limite de ce que peuvent faire nos instruments de détection, que ce soit au sol ou dans l'espace. Et ça signifie que le domaine qui correspond un petit peu aux analogues de notre système solaire, pas seulement avec la Terre, même si on va vraiment Mercure, Mars, la Terre, etc. Ce domaine reste encore relativement inexploré. Et c'est là qu'on attend beaucoup de plateaux pour nous ouvrir ce domaine des systèmes analogues à notre propre système solaire et pouvoir savoir si, en fait, notre système solaire est une voie qui n'a pas conduit à... qui a conduit un petit peu à un épiphénomène, ce qu'on a du mal à croire, en fait, ou est-ce que, tout simplement, c'est un système parmi bien d'autres.
Magali Deleuil, on va évidemment revenir sur les spécificités de la mission Plateau, mais d'abord, on l'a évoqué là plusieurs fois, il faut rappeler les autres missions qui ont été impliquées dans cette chasse à l'exoplanète, et notamment celle dans laquelle vous avez été impliquée vous-même, les missions Corot, qui a été mission pionnière en sismologie stellaire et en recherche d'exoplanètes. Une mission qui a duré de 2006 à 2014.
Oui, peut-être même un peu moins que 2014, si j'ai bonne mémoire. Je ne finis pas oublier, moi aussi. Mais oui, alors à l'époque, la grosse différence, ça a été que, du point de vue de la physique stellaire et de l'astérosismologie, donc Corot a permis des avancées significatives dont Rita parlera bien mieux que moi. Mais en fait, on observait des étoiles très brillantes avec Corot, et tandis qu'on faisait la recherche des exoplanètes sur une autre partie du champ de vue de Corot, et on cherchait les exoplanètes sur des étoiles beaucoup moins brillantes. Donc la spécificité de Corot, d'avoir ces deux programmes joints, mais en même temps sur des étoiles différentes. Tandis que maintenant, nous voulons arriver à analyser les systèmes comme un tout.
Rita Maria Ouazzani.
Oui, effectivement, en fait, il y a une continuité scientifique très claire, en fait, entre ces missions. Entre les deux, entre Corot et Plateau, il y a aussi Kepler et Tess, on y reviendra peut-être. Mais clairement, Corot, ça a été la mission fondatrice et qui, justement, combinait, utilisait la photométrie spatiale pour faire à la fois de l'observation de transit et de l'astérosismologie. En particulier pour les étoiles de type solaire, on ne savait pas avant Corot qu'on pouvait les détecter depuis l'espace, et ça a été la première observation spatiale en photométrie spatiale des pulsations telles qu'on a vu dans notre Soleil.
Voilà. Et puis alors depuis, en effet, le satellite Kepler lancé en 2009, qui a scanné pendant 3 ans 150 000 étoiles, qui a détecté 2500 exoplanètes, le satellite spatial américain TESS, premier satellite de relevé de transit du ciel entier en 2018. Alors pourquoi, Magali Deleuil, pourquoi Plateau n'est pas une énième mission de chasse aux exoplanètes comme les autres ?
Eh bien, parce qu'en dépit de toutes les avancées qu'ont permis toutes ces missions, eh bien, le domaine des analogues à notre système solaire reste toujours, vide, faute de détection claire, en fait. Donc, on n'a pas réussi à régler cette grande question de comment se situe notre système solaire par rapport à l'ensemble des systèmes planétaires qui peuvent exister dans notre galaxie ou en tous les cas dans le voisinage de notre galaxie.
C'est ça, Etta Maria Ouazani, c'est que les missions actuelles qui sont dédiées aux exoplanètes permettent uniquement l'étude des planètes proches de leur étoile et loin des conditions d'habitabilité similaires à notre système solaire.
Alors, oui, effectivement. En fait, chaque mission a ses spécificités de design qui ont été très bien justifiées à l'époque, hein, basées sur ce qu'on savait avant, mais qui du coup voilà apportent une certaine contrainte sur ce qu'on peut faire avec. Typiquement, en fait, Kepler était magnifique parce que permettait d'obtenir des séries temporelles photométriques extrêmement longues. Kepler a observé un seul et même champ pendant 4 ans, sauf que Kepler a observé un champ avec principalement des étoiles faibles, peu brillantes. Et du coup, ça n'a pas permis d'avoir un suivi sol en vitesse radiale qui par contre voilà était un des objectifs de TESS qui arrivait avec un champ beaucoup plus large, quasiment tout le ciel, mais des étoiles brillantes. Par contre, TESS n'observait que pendant des durées courtes de 27 jours, donc il y avait aussi une contrainte au niveau des périodes qu'on pouvait observer. Et Plateau, peut-être qu'on y reviendra, mais voilà, résout un peu toutes ces difficultés avec des étoiles brillantes pendant une longue durée d'observation.
Et on va parler tout de suite, en effet, de la méthodologie de Plateau, Magali Delay. En fait, ici, l'objectif scientifique, en tout cas, de ce programme, c'est d'étudier des systèmes planétaires dans leur entièreté avec leur étoile incluse.
Absolument. Donc, comme l'a dit Rita.
Considéré comme un tout, en fait. Sa planète, son étoile.
On a, quand on a conçu la mission, on a tiré un petit peu les conclusions, comme le disait Rita, des limitations auxquelles les instruments précédents s'étaient trouvés confrontés. Et Kepler a fait des observations absolument remarquables et merveilleuses. Il a permis justement d'explorer la diversité des mondes exoplanétaires. Il a trouvé en particulier les planètes autour des étoiles doubles, et ça c'est absolument remarquable comme résultat. Mais en même temps, bon, il y avait ce problème d'avoir la masse des planètes. Et l'approche que nous avons choisie sur Plateau, donc de lier à la fois de considérer le système en tant que tel, c'est-à-dire l'étoile, d'étudier l'étoile par l'astérosismologie. Alors Rita pourra mieux l'expliquer que moi, je vais lui laisser après préciser ce qu'il en est, et puis de détecter et d'analyser les planètes à travers la méthode des transits, et de façon à avoir les paramètres des planètes, de l'étoile bien sûr, et des planètes avec la plus grande précision possible. Donc depuis les données spatiales, on va pouvoir mesurer le rayon des planètes parce qu'on aura obtenu le rayon des étoiles, leur masse, et un paramètre fondamental qui est l'âge. Et ça, c'est une grande première. Et ensuite, on va coupler ça avec des observations au sol pour avoir les masses des planètes.
L'âge de l'étoile et donc du système solaire. Alors, quelle est plus précisément la méthodologie de Plateau ? On en parle tout de suite.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Toujours en direct sur France Culture avec Magali Deloye et Rita Maria Ouazani, nous parlons de la mission Plateau, une mission dédiée à l'étude conjointe d'exoplanètes et de leur étoile. Alors, c'est pas seulement une mission de détection et de caractérisation d'exoplanètes, c'est aussi Une mission de caractérisation de système planétaire. Et Plateau, pourquoi Plateau? Eh bien, c'est un nom qui rend hommage à Platon, aux racines grecques de l'astronomie. Dans la République, le philosophe écrivait « L'astronomie contraint l'âme à lever les yeux et nous conduit de ce monde à un autre ». Alors comment justement cette mission va-t-elle caractériser ces différents mondes? Rita Maria Ouazani, Plateau, alors ce satellite va être lancé en 2027, direction le point de Lagrange L2, situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et que va-t-il y faire? Il va observer, que va-t-il observer avec ses 26 caméras?
Alors, Plateau va observer pendant à peu près 4 ans, en durée nominale, potentiellement 4 ans et demi de plus au-delà, deux champs, principalement. Donc un champ plutôt dans le sud, où on va essayer d'observer plus d'une centaine de milliers d'étoiles de différents types, et on va obtenir des séries photométriques dans lesquelles on va observer à la fois à basse fréquence, typiquement de la rotation stellaire, de la variabilité due à l'activité magnétique, des transits planétaires évidemment, et puis à plus haute fréquence, des oscillations, donc des tremblements d'étoiles. Voilà.
Alors ça va poser aussi un défi numérique derrière tout ça en termes d'analyse de données, Magali Deloye.
Absolument. En fait, la méthode consiste à le télescope, enfin, les télescopes regardent toujours les mêmes étoiles en continu, en faisant une mesure du flux de toutes les étoiles qu'il peut mesurer. Toutes les 25 secondes pour les cas les plus rapides, même certaines 2,5 secondes, donc, pendant 2 ans. Et on construit ainsi, pour une étoile donnée, la courbe qui donne le flux de l'étoile avec le temps. Et on voit si le flux est stable, s'il présente des variations. On peut utiliser des techniques d'analyse, comme disait Rita, en fréquence pour arriver à sonder l'intérieur des étoiles. Et c'est un défi numérique également. Ça a l'air très simple dit comme ça. Mais d'abord, le volume de données à traiter est énorme. Les collègues de Paris ont mis en place toute une série de techniques pour extraire la lumière de l'étoile qui est particulièrement sophistiquée, qui va nous permettre de faire des analyses particulièrement détaillées et assez originales et uniques. Et du coup, les données elles-mêmes qu'on va devoir analyser sont particulièrement complexes.
Et on va voir aussi une combinaison de méthodes assez complexes. La méthode des transits, celle des vitesses radiales et puis celle de l'astérosismologie. Pour les vitesses, on va commencer avec la méthode principale des transits, qui est la méthode qui a apporté la majeure partie des découvertes d'exoplanètes. Magali Deloye, en quoi ça consiste, si on doit se représenter justement cette méthode de détection?
Alors, d'abord, il faut garder en tête que le mouvement de la planète autour de son étoile s'effectue dans un plan. On va dire en première approximation, ce plan ne change pas dans le temps. D'accord? Et donc, en fait, vous imaginez, l'étoile est un disque brillant, et si le plan de l'orbite de la planète est aligné avec votre ligne de visée, vous allez voir passer périodiquement, chaque fois que la planète va boucler une orbite autour de son étoile, elle va le disque sombre de la planète, qui elle n'émet pas de lumière de façon intrinsèque, mais va essentiellement réfléchir la lumière de son étoile. Ce disque sombre de la planète traverse le disque brillant de l'étoile et cache une partie de la lumière, et donc on voit une baisse de la luminosité de l'étoile, en fait,
comme une petite éclipse.
Tout à fait. Vous avez ça dans le système solaire avec les transits de Mercure et de Vénus.
Rita Maria Ouazani?
Oui, absolument. C'est une éclipse. On peut avoir beaucoup d'informations. Évidemment, on comprend assez bien que, un disque en occultant un autre, on a déjà les rapports de rayons typiquement directement issus du transit.
Je lisais par exemple que pour une planète comme Jupiter devant une étoile comme notre Soleil, ça correspond à une baisse de luminosité d'environ 1%. Pour une planète de la taille de la Terre, c'est seulement 0,008% de luminosité en moins. Ça parle aussi aussi, ça dit la difficulté de débusquer une planète tellurique comme la Terre, Magali Deloye.
Absolument, c'est tout petit. Et en fait, c'est ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas montrer de photos. Mais si vous avez, pour les deux planètes qui sont plus près du Soleil que nous dans le système solaire, vous avez les transits de Mercure sur le Soleil et les transits de Vénus également qui se produisent. Et quand on voit les photos, on voit que Mercure, typiquement, c'est un tout petit point noir perdu à la surface du Soleil. La façon dont nous le voyons lorsque les transits, lorsque Mercure passe devant le Soleil.
Cette méthode de transit, c'est aussi quelque chose qui nous permet de mesurer l'albédo de la planète. En quoi il y a des informations importantes, ça ?
Alors oui, c'est le pouvoir réflecteur de la haute atmosphère de la planète, en fait, et ça vous donne des informations sur les propriétés de l'atmosphère de la planète, en fait. Donc, si la planète est très sombre, s'il y a une atmosphère, s'il y a un sol, c'est un peu la même chose. Une planète sombre aura un albédo très faible, et une planète brillante, comme Vénus, en fait, qui a une albédo proche de 0,7, en fait, ça parle peut-être pas grand monde, mais enfin, donc ça veut dire qu'il y a ça veut dire que tout le flux lumineux qui est reçu par la planète est entièrement réfléchi, et 0, ça veut dire que en fait rien n'est réfléchi et le sol est très sombre, donc puisqu'il n'y a pas de lumière qui repart, si j'ose dire.
On a plusieurs aussi également inconvénients de cette méthode, avec justement cette méthode des transits, Magali Deloye. Bah, la méthode de transit, on a le souci, c'est que par exemple, si on doit mesurer le transit de la Terre devant le Soleil, il faut imaginer que ça dure que quelques heures et que ça ne se reproduit que tous les 365 jours. C'est donc pas facile à mettre en évidence.
Tout à fait. C'est effectivement un événement qui est relativement peu fréquent, et donc contrer cet effet, cette rare fréquence des transits, ça a conduit à surveiller, justement, quand on fait de la recherche, un très grand nombre d'étoiles. Et c'est pour ça que ce que l'appellent les programmes de recherche des planètes par transit observent en simultané plusieurs centaines de milliers d'étoiles, plusieurs dizaines.
Et ça impose aussi des contraintes sur le bruit, en fait, qu'on peut avoir dans notre photométrie. Si on a beaucoup de bruit instrumental ou de sources stellaires ou astrophysiques, on ne peut pas voir des transits qui sont peu profonds comme ceux des planètes Terre autour du Soleil. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai défi auquel tente de répondre Plato avec un bruit qui a jamais été inégalé.
Si je peux rebondir, c'est ça qui est intéressant dans ce que dit Rita, c'est que pour nous, qui nous sommes intéressés par les exoplanètes, l'étoile est aussi un bruit.
beaucoup de bruit à traiter et donc à démêler. Alors on a cette méthode des transits qui va être complétée avec des données au sol, hein, grâce à un réseau de télescopes au sol, par la mesure des vitesses radiales. Alors cette méthode, c'est elle qui est à l'origine de la toute première détection d'une exoplanète en 1995 par Michel Mayor et Didier Queloz, qui ont été nobélisés en 2019. Et on écoute justement Michel Mayor décrire cette méthode.
La difficulté pour trouver une planète, c'est le fait que l'objet est à côté d'un astre extrêmement brillant. Donc il faut utiliser une astuce pour le détecter. Et l'astuce qu'on a utilisée, c'est de détecter l'effet de la planète sur son étoile. Alors l'effet qu'on a mesuré, c'est le changement régulier de vitesse de l'étoile. Quand vous avez une planète qui tourne autour d'une étoile, ça va modifier un tout petit peu la vitesse de l'étoile. La difficulté, c'est que cette modification, elle est extrêmement petite et elle est très difficile à mesurer. Donc on utilise des instruments qu'on appelle des spectrographes qui vont décomposer la lumière de l'étoile, et on va utiliser un principe qui s'appelle l'effet Doppler, qui va déplacer un tout petit peu des structures de raies spectrales. C'est une structure qu'il y a quand on décompose la lumière d'une étoile, pour détecter ce mouvement. Et c'est comme ça que la planète a été trouvée. Et ce qui a été une grosse surprise, et pour nous et pour tout le monde, c'est que la planète trouvée n'était pas du tout attendue, parce que elle est en orbite extrêmement rapprochée autour de son étoile. Elle met un peu plus de 4 jours pour tourner autour de son étoile. Et la planète ressemble à notre planète géante Jupiter. Et on n'a pas d'équivalent dans le système solaire. Et ça a été relativement difficile de convaincre la communauté qui a mis du temps pour en fait accepter cette découverte étonnante.
Ah, mais à coup pas, c'était Didier Quello au micro de France 24 en 2020. Rita Maria Ouazani, la présence d'une planète provoque donc un léger mouvement d'étoiles et ça se mesure également.
Absolument, c'est en fait le fait que quand on a un système à deux corps, en fait, même le corps le plus léger exerce en fait une force gravitationnelle sur le système le plus lourd, et il y a cette espèce de mouvement qui provoque un décalage Doppler en spectroscopie.
Magali Deloy.
Tout à fait, et c'est l'intérêt, c'est que la méthode des vitesses radiales, puisque c'est un effet gravitationnel, nous permet de mesurer la masse de la planète. Donc si vous avez suivi, la méthode des transits est un effet géométrique, il permet de mesurer le rayon des planètes, et la méthode des vitesses radiales permet d'en mesurer la masse, mais chaque fois, vous devez connaître le même paramètre pour l'étoile, si vous voulez avoir la masse ou le rayon de la planète.
En tout cas, c'est pour ça qu'on parle de méthode complémentaire, pour avoir Absolument. Vraiment une caractérisation...
Tout à fait.
Et c'est le principe de la construction de la mission Plateau, qui inclut dans la mission, même si c'est une mission spatiale ESA, tout un programme de suivi en vitesse radiale au sol.
Au sol, parce que depuis 1995, la méthode des vitesses radiales a quand même permis la détection de nombreux autres exoplanètes, mais qui sont plutôt soit des planètes massives, soit des planètes proches de leur étoile, Magali Deloy.
Alors oui, initialement, et puis petit à petit, parce que on a maintenant des programmes d'observation des mêmes étoiles par vitesse radiale qui courent depuis la découverte de 51 PEC-B, donc on commence à avoir des archives sur 30 ans. Et donc, en fait, on voit que les vitesses radiales commencent à élargir le domaine de période orbitale, et on commence à rentrer dans le domaine des analogues aux planètes géantes dans notre propre système solaire.
Rita Maria Ouazani.
Oui, en fait, c'est simplement parce que la force d'attraction gravitationnelle, elle est inversement proportionnelle au rayon de l'orbite et proportionnelle aux masses des corps. Donc forcément, effectivement, on détecte les effets les plus forts pour les planètes les plus massives et les plus proches.
Mais finalement, quel est l'objet le plus important d'un système planétaire? Eh bien, ce ne sont pas les planètes, mais l'étoile. Alors pourquoi l'astériosismologie est-il un paramètre clé pour comprendre l'évolution des systèmes planétaires? On en parle dans une poignée de secondes.
We'll be right back.
Delex, rendez-vous dans l'espace en direct sur France Culture, car nous avons bientôt rendez-vous dans l'espace avec le lancement de la mission spatiale Plateau, enfin bientôt, en 2027. On en parle avec nos deux invités du jour, Magali Deloye, astrophysicienne, professeure des universités au laboratoire d'astrophysique de Marseille et membre du conseil scientifique de l'ESA pour la mission Plateau, Rita Maria Ouazani, astronome adjointe au laboratoire d'instrumentation et de recherche en astrophysique de l'Observatoire de Paris PSL. On vient de voir que Plateau combinera observation spatiale et télescope au sol pour étudier et caractériser des systèmes étoiles-planètes comparables au système solaire. Elle mesurera avec précision inégalée masse, rayons et âge des étoiles et des mondes découverts. Alors, on a parlé de la méthode des transits, des vitesses radiales, on n'a pas encore parlé de l'astérosismologie, Rita Maria Ouazani. Plateau va utiliser donc ce système, l'astérosismologie depuis le satellite. En quoi ça consiste ?
Alors, donc l'astérosismologie, c'est l'étude des oscillations stellaires. Et les oscillations stellaires, c'est des tremblements d'étoiles. L'étoile, on peut la comparer par exemple à un instrument de musique. C'est une cavité de résonance dans laquelle peuvent se propager différents types d'ondes, comme des ondes acoustiques, ou donc qui sont les ondes qui propagent le son, ou des ondes de gravité, qui sont comme un petit peu ce qu'on voit à la surface d'un lac quand on lance un caillou. Ces ondes, en fait, en étudiant la façon dont elles résonnent, enfin la façon dont l'instrument résonne, on peut en déduire les dimensions de l'instrument, typiquement. Et en principe, on pourrait aussi en déduire la composition du gaz qui remplit cette cavité résonante. Bon, en pratique, sur Terre, les instruments sont remplis du même gaz à température à peu près ambiante. Mais par contre, en fait, quand on écoute différents instruments, on entend des fréquences suivant graves, suivant que ce soit des gros instruments comme une contrebasse par exemple, ou aiguë pour des violoncelles, plus aiguë encore pour des violons par exemple. Et ça marche. La stéréosismologie, ça fonctionne comme ça. On peut avoir une idée, des dimensions des étoiles et également du gaz, de la constitution, de la structure interne du plasma stellaire. Par exemple, directement avec les ondes acoustiques, on peut avoir le profil de la vitesse du son dans l'étoile.
Les structures internes stellaires, c'est justement quelque chose qui nous reste encore à apprendre de la physique des étoiles. Beaucoup à apprendre.
Ah, et oui, effectivement. En fait, quand on observe les étoiles, on obtient de la lumière que de la photosphère. C'est-à-dire les photons se sont libérés vraiment à la toute surface de l'étoile. Et donc, on ne peut pas avoir d'informations sur ce qui se passe vraiment au cœur. Et cette information, on y a accès maintenant grâce à la sismologie, parce que les ondes, les modes qui s'établissent, les oscillations qui s'établissent dans les étoiles, elles vont arriver en surface et faire vibrer la surface stellaire. Et donc, elles vont faire vibrer cette surface avec, par exemple, une certaine vitesse. Et en fait, on va pouvoir détecter cette vitesse en spectroscopie, en vitesse radiale, typiquement. Alors après, il faut des très grandes précisions. Mais par contre, en photométrie, ça va aussi donner ces vibrations, des variations de brillance, on va dire. Et ça va être détectable dans des instruments comme les photomètres embarqués sur Plateau.
Magali Deloye.
Oui, absolument. En fait, c'est un peu similaire à ce qu'on fait sur Terre quand on a les sismographes qui nous disent, à l'occasion d'un tremblement de terre, la façon dont on arrive à retracer, la façon dont les ondes sont propagées à l'intérieur de la Terre et du coup en déduire la structure interne de notre planète. Je pense qu'en astérosismologie, on peut la faire pour le Soleil. Mmh. On l'a fait un peu, mes collègues l'ont fait, moi je suis pas trop concernée, avec Corot, les quelques étoiles brillantes observées par Corot. Et là, on va pouvoir le faire sur des milliers d'étoiles avec Plateau, en fait. Et donc ça, on attend quand même un certain Ça va avoir des conséquences pour tout ce qui est des modèles de structure interne et d'évolution stellaire. Et ça, c'est important parce que les étoiles, on les retrouve dans tous les domaines astrophysiques, hein, même en cosmologie.
Mais alors pourquoi justement, Rita Maria Ouazani, c'est un paramètre clé pour comprendre l'évolution des systèmes planétaires, c'est cette analyse des oscillations stellaires?
Bah, qui dit évolution dit âge, dit voilà, un point dans le temps. Et en fait, l'âge des systèmes, on peut, disons à la précision qu'on connaît aujourd'hui, considérer que c'est l'âge des étoiles, en fait. Donc l'âge d'une planète, c'est en gros, à quelques millions d'années près, mais c'est vraiment pas grand-chose, un million d'années, c'est en gros l'âge de l'étoile. Et l'âge de l'étoile, en fait, il y a assez peu de manières de la déterminer, mais la principale manière, c'est l'astérosismologie, qui permet de comparer en fait les caractéristiques de ces oscillations observées en photométrie avec ce qui est prédit par des modèles et des modèles d'évolution stellaire. Or, bah, les modèles d'évolution stellaire, ils sont aussi imparfaits que l'est notre connaissance actuelle de la structure interne. Et donc, toute l'idée, c'est d'avoir cet aller-retour, c'est-à-dire d'utiliser ce qu'on connaît aujourd'hui de la physique stellaire pour avoir une idée de l'âge, mais aussi bah, de voir quand ça colle pas, de voir d'utiliser toutes ces observables pour les remettre en cause nos modèles et les faire les améliorer.
Eh bien, on va continuer de vibrer avec ce satellite. L'instrument a donc passé les tests, il est prêt et c'est ce qu'on découvre tout de suite avec le reportage du jour. Pour mener à bien ses missions d'observation, le satellite Plateau doit, avant son lancement qui est prévu pour 2027, être testé pour garantir sa robustesse et sa performance. Et on en parle avec vous, Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous avez eu la chance de découvrir l'endroit où il a justement été assemblé et testé, à Cannes, dans les salles blanches de Thales Alenia Space.
Oui, leader mondial sur le marché des satellites, Thales Alenia Space est engagé dans la mission, à la fois dans la conception, l'intégration et l'assemblage de plateaux. C'est ici, dans ces salles blanche, qu'il a passé de nombreux tests. Vibrations et acoustiques infernales, températures extrêmes, Plateau a été durement éprouvé par des contraintes qu'il va subir au décollage et tout au long de sa vie dans l'espace. Dans les salles blanches, Jean-Luc Petit, ancien chef du projet, nous fait découvrir des engins de torture qu'il a subis, dont il est ressorti pourtant indemne pour accomplir sa mission.
On a fait essentiellement ici à Cannes des activités d'intégration, c'est-à-dire d'assemblage, et de tests, plutôt des tests électriques fonctionnels, c'est-à-dire qu'on a vérifié qu'elles fonctionnent.
Et donc là, vous nous amenez en salle blanche?
Voilà, je vous invite on va aller se vêtir, parce qu'il faut revêtir une tenue adéquate pour pas non plus nous-mêmes apporter des poussières dans la salle, et on va visiter les installations les plus marquantes.
Alors, décontamination.
Allez-y, je vous en prie.
Maintenant, on est dans le vestiaire.
Voilà, on est dans le vestiaire. Donc en fait, avant de pénétrer dans les salles propres, on va revêtir une tenue avec une jarlotte sur la tête. On va mettre des choses autour des chaussures et des blouses. Et des blouses qui ont notamment des propriétés antistatiques. Elles vont éviter qu'on génère des décharges d'électricité statique, encore une fois, qui pourraient abîmer l'électronique du satellite.
Zone ISO 8.
Voilà, je laisse rentrer.
C'est immense.
Voilà, c'est très grand. Nous voilà dans le grand hall donc où on réalise l'assemblage et certains tests de tous les satellites qu'on produit ici à Cannes. Alors le site de Cannes, il a une particularité, c'est que c'est un site qu'on peut qualifier d'intégré, c'est-à-dire qu'on peut réaliser toutes les activités d'assemblage, même de production de certains éléments du satellite et de tests, sans jamais avoir besoin de le sortir pour aller dans un autre bâtiment.
Donc c'est ici qu'il a été conçu, créé, mais aussi torturé, vous le disiez.
Absolument, torturé. Alors,
donc quels sont les engins de torture qu'on trouve ici?
Alors on en a un devant nous ici qui est assez spectaculaire. Vous voyez cette énorme, on dirait une énorme cocotte minute blanche. C'est ce qu'on appelle l'espace 500. Donc c'est un caisson de 500 mètres cubes, comme son nom l'indique, dans lequel on va réaliser ce qu'on appelle les essais en vide thermique. Et donc, pour pouvoir vérifier que tout ça marche bien et que le satellite ne va pas trop chauffer, ou à contrario qu'il ne va pas être trop froid, ce qui serait préjudiciable au fonctionnement de son électronique, on va le mettre dans cet énorme caisson où on fait le vide. C'est-à-dire dans ce caisson, il y a un vide très poussé. Et puis là, on va commencer à chauffer le satellite, le refroidir, le réchauffer. Et on va faire plusieurs cycles, on appelle ça des cyclages thermiques, de façon à vérifier que ces variations de température n'abîment pas le satellite finalement. Et c'est un essai qui dure assez longtemps. Typiquement, ça dure un mois. Donc le satellite va rester en continu. Le satellite va rester un mois en continu dans cette enceinte. Et donc il va subir tous ces cycles infernaux de réchauffage, refroidissement, réchauffage, refroidissement.
Quand vous dites qu'on teste par ces contraintes le fonctionnement du satellite, on parle de quoi exactement des caméras qui fonctionnent? Alors, il me semble qu'elles doivent être toujours à 80 degrés. Moins 80
degrés. Les caméras de plateau, elles doivent être très froides.
C'est aussi le module de service, etc.
C'est tout. C'est l'ensemble du satellite.
Là, effectivement, comment on teste justement la fonctionnalité vu qu'il n'est pas opérationnel
Alors, on va l'allumer. C'est-à-dire que le satellite, on ne le met pas tout seul dans le caisson. On le branche sur tout un... On va l'instrumenter, donc on va mettre beaucoup d'instruments de mesure à bord. On va le mettre sous tension, on va le faire travailler, on va allumer les instruments. On va faire tout ce qu'il est possible de faire. Vous voyez ici, on a tout un ensemble de...
On s'approche.
Voilà, on va s'approcher un petit peu. On a toutes ces baies électroniques, vous voyez, qui sont très nombreuses, hein, même elles sont sur deux étages. Et donc toutes ces baies, finalement, sont des moyens de test, on appelle ça des bancs de test, qui permettent de actionner le satellite et faire des mesures pour vérifier que tout se passe bien à bord. Pour plateau, effectivement, les caméras doivent être très froides pour éviter d'avoir ce qu'on appelle du bruit, c'est-à-dire des parasites.
Plateau subit aussi des tests d'ordre vibrationnel et acoustique.
Voilà, absolument. On va aller voir la partie test mécanique,
vibration.
Test d'environnement, vibration, voilà.
Alors là, on va où ?
On va rentrer dans la zone ici où on réalise les tests de vibration, justement. Donc, je vais vous montrer l'équipement qui nous sert à faire ces essais-là. Il est là devant nous. Donc cet équipement, on l'appelle le pot vibrant. Donc imaginez, ça ressemble assez à un haut-parleur. Donc en fait, c'est un énorme bobinage électrique avec une pièce mécanique. Et en fait, cette pièce, elle va vibrer. Alors ici, comme il est configuré là, ça va vibrer de haut en bas pour faire vibrer le satellite de la même façon que ce qu'il aura à subir sur le lanceur. Quand on est sur un lanceur
au décollage,
pendant tout le vol, tant que le moteur de la fusée fonctionne, ça vibre beaucoup. On va vérifier qu'à bord, c'est pareil, tout se comporte bien, il n'y a pas une pièce qui vibre trop, qui résonne, une vis qui se détache, ce genre de choses.
De haut en bas, pas de manière latérale ?
Alors, on le fait sur les trois axes, c'est une très bonne question. Là, il est configuré pour faire suivant l'axe vertical. Et là, vous voyez, on devine un peu le mécanisme avec la chaîne ici. On peut le faire basculer à l'horizontale. Alors, il faut enlever toutes ces protections jaunes. Voilà, tout le sol jaune, c'est une sécurité pour pas que les opérateurs tombent dedans. Mais on va retirer cette protection jaune, faire basculer notre peau vibrante 90 degrés. Et là, il vibrera, si vous voulez, horizontalement pour tester les deux axes. Et après, le satellite, on le fera tourner d'un quart de tour pour tester en X et en Y.
Il me semble qu'il y a aussi des tests acoustiques.
Alors voilà,
quel est l'intérêt ? On pourrait s'interroger finalement.
Eh bien, l'acoustique, c'est pareil. En plus que les vibrations, quand vous êtes dans la coiffe du lanceur, pendant le lancement, eh bien, en fait, il y a un bruit très très fort. Alors c'est pareil, je ne saurais pas vous dire le chiffre en décibels. Je crois qu'on est au-delà des 100 décibels. Je ne suis pas spécialiste, mais vraiment un bruit très fort qui pourrait abîmer les équipements du satellite. Donc en fait, on a ici derrière cette porte, alors je ne peux pas vous l'ouvrir, mais on a une salle en fait avec d'énormes haut-parleurs, un peu des sortes de trompes qui sont au plafond de la salle. On va mettre notre satellite au milieu. Alors, il faut sortir de la salle.
Parce que
ça serait dangereux pour un être humain. Il ne faut pas rester dans la salle. Hein. Autant, les vibrations, on peut les regarder d'assez près. Là, l'acoustique, on sort. Hein. C'est dangereux. Et donc, on va soumettre le satellite à des niveaux de bruit. C'est vraiment un bruit très fort pour vérifier que là aussi, on n'abîme rien.
Que les ondes mécaniques ne viennent pas altérer.
Voilà. Je n'ai pas une vibration, un son qui va quelque part faire trop vibrer et puis détériorer un équipement du satellite.
Donc là, il a passé les tests haut la main, il continue encore à être testé aux Pays-Bas.
Alors, en ce qui concerne le plateau, donc, le satellite est complètement assemblé. Hein. Il est aux Pays-Bas. Donc, il a subi récemment les essais, ce qu'on appelle les essais mécaniques, c'est-à-dire acoustiques et vibrations. Il a passé tous ces essais-là. Et très bientôt, au mois de mars, il doit rentrer en vide thermique.
Et donc, on a bon espoir d'un décollage pour décembre 26.
Alors, à ce que je sais, je crois que le décollage est plutôt prévu au premier trimestre 27. Il faut noter quelque chose de très important. Un message très positif, c'est que Plateau, quand on a commencé à travailler sur le programme, c'était en 2018, à l'époque, on prévoyait une date de tir en décembre 2026, et on est toujours resté conforme à cette date. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris de retard, et c'est quelque chose de très rare, j'avais envie de dire de presque exceptionnel, ne prennent aucun retard. On a tout du long de l'affaire, l'industriel OHB, tous les partenaires et Thales, on a toujours resté conforme au planning, et c'est quelque chose qui mérite d'être noté.
Merci Céline Lezen pour la visite. Nos reportages loin du studio pour se frotter à la science telle qu'elle se fabrique au quotidien. C'est notre collection La Science au Labo et c'est à retrouver sur votre application préférée, l'appli Radio France bien sûr. Rita Maria Ouazzani, une réaction à l'écoute de ce reportage?
C'est toujours très émouvant de voir l'ensemble des défis technologiques en fait que représentent de telles missions et de voir toute la panoplie de métiers différents en fait qui travaillent, qui concourent à faire de cette mission une réussite. Honnêtement, nous on est assez loin de ce type de travail, hein, de tests très techniques sur plateau, mais c'est toujours assez bluffant de voir ces progrès. Et c'est technologique.
Et vous, Magali Deloy, en tant que membre du conseil scientifique de l'ESA pour cette mission, comment avez-vous vécu ce reportage?
Ah, je l'ai trouvé absolument remarquable. Je trouve que, justement, pour un public et surtout un jeune public, je trouve que c'est important aussi de garder en tête. On voit les astronomes qui font des mesures, des choses comme ça, mais en vérité, nous sommes complètement dépendants de nos instruments. Hein. N'oublions pas, nous ne sommes pas capables de partir entre les étoiles, visiter des planètes, faire des mesures sur place ou des choses comme ça. Il y a quelques corps dans le système solaire pour lesquels on a pu envoyer des sondes automatiques, des choses comme ça. C'est déjà beaucoup. Mais en vérité, là aussi, ce que ça veut dire, c'est ça montre bien à quel point nous sommes dépendants de toute la technologie. Et nous poussons la technologie dans ses retranchements. Nous essayons toujours d'aller plus loin. Et pour ça, effectivement, comme l'a dit très bien Rita, nous avons besoin d'experts en mécanique, en optique, en thermique également. Donc, des ingénieurs qui sont d'ailleurs des gens très créatifs, très inventifs. Et le spatial en soi est aussi une spécialité. C'est très banalisé aujourd'hui, mais en vérité, non. On est dans un milieu totalement hostile, un froid extrême, un vide extrême, avec des variations de température selon si on est exposé au rayonnement solaire ou pas, qui sont là aussi extrêmes, des flux solaires, on demande à nos instruments de travailler dans des conditions qui ne sont pas celles que nous connaissons sur Terre.
Eh bien, que nous réserve cette mission? Reste à l'écoute, on continue ensemble.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Toujours en direct sur France Culture avec Magali Deloy et Rita Maria Ouazzani. On frétille à l'approche du lancement de la mission spatiale Plateau. Enfin, il faudra être encore un peu patient puisque ce lancement est prévu pour le premier trimestre de 2027. Le projet a été adopté par l'ESA en 2017. Magali Deloy, 10 ans pour un projet spatial, pour une mission spatiale comme celle-ci, c'est rapide ou c'est un temps exceptionnel?
C'est correct, on va dire.
C'est correct.
On va boucler notre 20e année de travail. Hein.
C'est plus long que ça, en fait. Les premiers concepts, c'était au milieu des années 2000, en fait.
2006.
C'est ça, 2006.
La première idée.
Je me souviens d'avoir vu Claude Catala, le premier PI de la mission, la première direction scientifique de la mission, présenter ce projet en 2008 à une conférence. Donc, en réalité, on va être à 20 ans de travaux là-dessus. Oui.
Pour résumer, on a donc une mission qui va nous permettre d'obtenir des informations sur la structure interne de l'état d'évolution de centaines de milliers d'étoiles. Plateau va tenter de répondre à trois questions fondamentales. Comment se forment et évoluent les planètes et les systèmes planétaires? Notre système solaire est-il unique ou existe-t-il d'autres systèmes planétaires identiques aux nôtres? Et enfin, dans ces systèmes-là, existe-t-il des planètes potentiellement habitables? Vos espoirs de réponse par rapport justement à ces problématiques-là, Magali Deloy?
J'espère bien justement qu'on va trouver peut-être pas des centaines de planètes similaires à la Terre, mais quelques-unes, ça serait déjà remarquable, quoi. Enfin, ce serait génial, on peut le dire. Hein. On attend tous cette réponse-là, puisque comme nous disions au début de l'émission, en fait, aujourd'hui, on n'est pas capable de dire est-ce que la Terre est une planète, fortuitement on est arrivé à ça, ou est-ce que justement ce n'est qu'une planète parmi bien d'autres relativement semblables.
Rita Maria Ouazzani.
Oui, effectivement. Et en fait, avec le nombre d'étoiles qu'observera Plato, il y a aussi toute la diversité en fait des systèmes planétaires. Alors cette diversité, on a commencé à l'entrevoir, hein, comme tu l'as dit avec Kepler. Mais là, on va pouvoir aussi avoir une caractérisation beaucoup plus fine des paramètres stellaires et des paramètres planétaires et des rayons et des masses à quelques pourcents. Et ça va être vraiment nouveau. Et je voulais ajouter parce que en fait, pour atteindre les objectifs scientifiques, notamment sur la compréhension de l'évolution et de la formation des systèmes planétaires, il y a des objectifs qui sont plutôt côté de la physique stellaire, qui sont là d'avoir une compréhension fine de l'évolution stellaire et de la structure interne. Parce que en fait, on a encore de grandes inconnues, et notamment concernant tous les processus dynamiques qui ont lieu dans les intérieurs stellaires et qui sont fondamentaux dans le sens où ils vont modifier l'âge des étoiles. On peut imaginer, par exemple, que si on a un transport d'éléments chimiques à l'intérieur de l'étoile, on va pouvoir ramener du carburant frais, de l'hydrogène frais vers le cœur où il va pouvoir fusionner en hélium, enfin pour donner de l'hélium. Ça, typiquement, ça va rallonger la durée de vie de l'étoile dans cette phase-là où elle brûle l'hydrogène. Et si on prend pas en compte ces phénomènes dynamiques, ce transport, on va se tromper. On peut se tromper, mais vraiment notablement de 20-30% sur l'âge de l'étoile. Et du coup, sur l'âge du système. Et donc, vraiment, voilà, c'est ça qui est formidable avec Plato, c'est qu'on va aller travailler sur la physique stellaire fondamentale pour avoir vraiment la vue d'ensemble et mettre les systèmes sur la flèche du temps.
Est-ce que, par exemple, une planète tellurique en orbite dans la zone d'habitabilité d'une étoile, mais pas comme le Soleil, mais d'une naine blanche ? Ce serait un résultat étonnant, Rita Maria Ouazzani ou Magali Delay.
alors, il y a beaucoup de questions. Alors, est-ce que ce serait... Alors, avant de devenir une naine blanche, une étoile va passer par différents états. Et en particulier, elle va passer par un état où, qui est la phase de géante rouge, où son enveloppe sera extrêmement dilatée. Et en principe, tu confirmeras Magali, je pense qu'une planète Terre, enfin en tout cas la planète Terre telle qu'elle est actuellement autour de son Soleil, sera absorbée par l'enveloppe de la et probablement détruite par l'enveloppe de la géante. Je pense que c'est peu probable qu'on en détecte.
Magali Deloy.
On pourra détecter peut-être des planètes, il y a eu quelques cas autour d'étoiles un petit peu comme les naines blanches en fin de vie, etc. La définition de zone habitable, c'est-à-dire la distance, la zone de distance par rapport à l'étoile, ou si la planète a de l'eau, l'eau peut-être à l'état liquide, je crois que on ne peut plus vraiment en parler parce que là, normalement, la planète est passée avant dans des états un petit peu particuliers vu l'évolution de son étoile. Mais ce qui nous intéresse finalement, c'est d'arriver à voir se dégager des tendances évolutives. On voit dans les planètes qu'on connaît aujourd'hui certaines caractéristiques et on n'est pas capable, parce que l'âge stellaire est un paramètre qui est absolument très difficile à mesurer de façon précise, on n'est pas capable de dire si les tendances que l'on observe pour certains types de planètes sont finalement des caractéristiques intrinsèques ou si ça résulte d'un effet d'évolution.
Mais alors par rapport justement à cette caractérisation, faut aussi dire que Plato va pas étudier finement l'atmosphère des exoplanètes détectées. Enfin en tout cas, ça va surtout être une mission qui va nous servir et on va vraiment conclure en quelques mots sur ça, sur ça nous permettre de cibler, d'identifier des cibles de choix pour des études postérieures.
Oui, tout à fait. En termes d'atmosphère, il y aura dont on a parlé tout à l'heure, à savoir un peu le pouvoir réflecteur de certaines planètes très proches, etc. Et puis ensuite, ça va permettre de trouver des cibles intéressantes pour une mission qui va analyser en détail les atmosphères comme Ariel ou JWST.
Voilà, Ariel, qu'on attend le lancement qui est prévu en 2028.
31, j'ai cru comprendre que c'était un petit peu.
31, c'est retardé. Et moi aussi, je suis en retard. Merci à vous deux. Et tout de suite, on retrouve, comme tous les jours, la chronique d'Alexandra Delbo avec un retour sur Terre. C'est la chronique avec science.
Merci beaucoup.
Merci.
Comment le fleuve Yangtze se rétablit-il? C'est le troisième plus grand fleuve du monde, après l'Amazone et le Nil, et le plus long à ne traverser qu'un seul pays, en l'occurrence la Chine. Il s'écoule d'ouest en est, il prend sa source sur le plateau tibétain, à plus de 5000 mètres d'altitude, passe la région agricole du Sichuan, continue son chemin par la désormais célèbre ville de Yuhan, et finit par atteindre Shanghai pour se jeter dans la mer de Chine orientale. Près de 6400 km à travers tout le pays, ce qui en fait évidemment un fleuve vital. Il fournit de l'eau à des centaines de millions de personnes, irrigue les rizières, c'est un axe majeur de transport et une source historique de pêche. Mais la surexploitation de ce fleuve a détruit sa biodiversité. Sébastien Brosse est professeur à l'université de Toulouse et chercheur au Centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement.
Il y a eu des suivis des populations de poissons depuis plus de 70 ans. Et dans les années 50, on pêchait à peu près 400 000 tonnes de poissons par an. Et ce tonnage a diminué très rapidement au cours des années 60 et 70 pour atteindre des pêches de l'ordre de 50 à 100 000 tonnes par an dans les années 2010-2020. Donc l'impact des pêches s'est fait sentir à partir des années 60. Les premières mesures ont été prises dans les années 2000 où des zones de conservation ont été mises en place avec une régulation de la pêche. Des zones de réserve ont également été mises en place, mais ces premières mesures n'ont pas suffi à enrayer le déclin. Face à ce déclin qui continuait assez rapidement, le gouvernement chinois a décidé de mettre en place un moratoire sur la pêche pour une durée de 10 ans sur l'ensemble du bassin versant. Donc ce moratoire, il a été mis en place en 2021.
Ce moratoire, c'est donc une pause forcée de la pêche sur tout le fleuve. C'est une mesure extrêmement drastique. En fait, dans le monde, on n'a jamais connu d'interdiction de la pêche sur un espace aussi vaste. Tout l'enjeu de cette nouvelle étude parue dans la revue Science est donc d'évaluer cette mesure. Le fleuve Yangtze se rétablit-il depuis la mise en place de ce moratoire ? Pour juger de la bonne ou mauvaise santé du fleuve, il faut paradoxalement pêcher un petit peu. On lance un filet, toujours de la même manière, et on regarde ce que l'on prend. Le nombre de poissons et la diversité d'espèces dans chaque prise. 57 points de collecte sont répartis tout au long du fleuve, et les scientifiques comparent ainsi la santé du Yangtze avant et après la mise en place du moratoire. Résultat, c'est une très bonne nouvelle, et c'est rare quand on parle d'environnement, le fleuve s'est déjà repeuplé.
Le premier résultat assez surprenant qu'on a eu, c'est que la biomasse, c'est-à-dire la quantité de poissons, a triplé en l'espace de quelques années, en l'espace de 3 ans. En parallèle de ça, le nombre d'espèces capturées sur chaque site a augmenté d'à peu près 13%. Alors ces espèces, le nombre d'espèces capturées, ça représente des espèces qui étaient devenues rares sous l'effet de la pêche et dont les populations se rétablissent petit à petit. Et on a vu aussi pour certaines espèces qui n'étaient plus du tout capturées, on pouvait même se demander si elles n'étaient pas éteintes, on a vu réapparaître ces espèces dans les échantillonnages. Bon, ceci dit, ça reste extrêmement fragile. C'est quelques individus qui ont été capturés, c'est le cas du poisson de tube par exemple, c'est le cas aussi de l'esturgeon du Yangtze. Finalement, c'est pas si étonnant que ça, puisque la mesure prise par le gouvernement chinois est extrêmement drastique. Cet arrêt de la pêche accompagné aussi d'une réduction du trafic fluvial, d'une amélioration de la qualité de l'eau. Donc on pouvait s'attendre à ce que ça s'améliore. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est la vitesse à laquelle ça s'est amélioré.
La biodiversité n'est pas encore revenue au niveau historique des années 50, mais ses résultats montrent qu'avec des mesures de conservation très strictes, la nature peut se réparer. D'autres fleuves dans le monde font face à un déclin de biodiversité similaire, comme le Mékong ou l'Amazone, mais il faut souligner que les moratoires de ce type ne sont pas seulement des mesures écologiques. Une interdiction de l'exploitation de fleuves doit s'accompagner de mesures sociales pour que les populations locales puissent se nourrir, pour que les désormais anciens pêcheurs puissent retrouver un travail ou alors être indemnisés. Cette étude est la première à analyser l'effet de ce moratoire. Elle va donc continuer pendant les 10 ans de sa durée, mais ce n'est pas une interdiction définitive. La grande question est qu'adviendra-t-il ensuite ? Et c'est le grand défi à venir, transformer cette pause forcée en une gestion durable des ressources du fleuve.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Alexandre Morales, Louise Ormond-Séji. À la réalisation, c'était Olivier Bétard. À la technique, aujourd'hui, Jean-Guilain Meige. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.